Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un projet que Greta Thunberg a qualifié de système toxique, fondé sur l'exploitation, l'extraction et la pollution. Ce serait une folie absolue de le mener à son terme, a-t-elle ajouté. Elle s'est d'ailleurs rendue sur place, dans la zone à défendre qui s'est créée autour de ce projet de construction d'une autoroute reliant Castres à Toulouse. Un cas qui commence à ressembler fort à celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, jugé inutile et écocide par les militants écologistes pas prêts à lever le camp. Pendant ce temps, l'homme auquel nous nous intéressons aujourd'hui a choisi, lui, un autre mode de protestation que la parole percutante de la fameuse militante suédoise. Lui, il monte dans les arbres, se maintient aux branches avec des baudriers et n'en descend pas pendant des jours, des semaines, jusqu'à 28 jours, une fois, jusqu'à ce qu'il soit entendu. Il a ainsi grimpé trois fois sur le même platane qui se dresse au 246 boulevard Saint-Germain en face du ministère de la Transition écologique. Comme le baron d'Italo Calvino, avec une obstination surhumaine et un certain sens de la poésie, il en profite aussi pour discuter avec son arbre. Oui, ils se disent des trucs, parfois, au-delà des mots, ils communiquent. Qui est cet homme? Comment explique-t-il son combat pour les arbres et contre cette autoroute? Pourquoi a-t-il choisi cette forme de protestation? Voici Thomas Braille, un portrait perché signé Anna Benjamin.
Alors, on vient d'arriver chez moi. Voilà, tu reconnais quand on est chez moi au son des oiseaux. Il y en a plein ici, ils sont heureux. Bienvenue. Là, tu vois, on va rallumer un petit peu la cheminée parce qu'il fait pas chaud. Ce bois, il vient de chez moi. J'ai 1,5 hectare de terrain avec de la forêt. Et moi, je suis respectueux de ma forêt. Je prélève un arbre toujours en conscience. En tout cas, je regarde que ce soit pas une niche écologique. Je dis merci aux arbres, parce qu'ils me chauffent aussi. Voilà. Je m'appelle Thomas Braille, j'ai 49 ans, je suis arboriste grimpeur et fondateur du groupe national de surveillance des arbres, qui est une association qui a pour vocation de les protéger. Alors j'habite à côté de Mazamé, donc c'est dans le Tarn. J'ai grandi ici depuis tout petit et j'ai jamais quitté ce terrain là où je vis aujourd'hui. Moi je viens d'une famille d'ouvriers. Mon père c'était quelqu'un qui faisait les 3-8. Il était veilleur de nuit dans une station de service. Ensuite il travaillait chez Valeo, il faisait des pièces pour l'automobile. Et ensuite il allait compléter encore son salaire en étant boucher, parce que mon père était boucher de formation, quoi. Et mon père, c'est quelqu'un qui a toujours été malade toute sa vie. Il s'est toujours battu contre la maladie. Il avait une force de conviction et il était très combatif, quoi. Et mon père, il m'a légué ça, cet esprit combatif, quoi. Il lâchait rien, même avec la maladie. Et ma mère nous a gardés. C'était une femme au foyer, comme ça se faisait à l'époque, hein. Et elle nous a très bien élevés, voilà, dans le calme, dans la sérénité, quoi. Alors, mon enfance ici, elle est basée beaucoup sur l'imaginaire parce que on était assez isolés et j'avais pas trop de copains, moi, dans le coin. Et pour le coup, moi, je partais en forêt avec mon chien, j'allais fabriquer des cabanes dans les arbres, les rochers, les ruisseaux, enfin voilà, tout ça, c'était mon univers. Et pour moi, la forêt, c'est un cocon, en fait, qui est très sécurisant. J'étais pas un fanat d'études, moi, être assis toute la journée, les fesses sur une chaise pendant 8 heures. Moi, je voulais être garde forestier. Et il se trouve que ben, je n'avais pas suffisamment le niveau d'études pour pouvoir accéder à ça. Donc là, les parents, ils ont vu que j'aimais la nature. Ils m'ont dit, ben, tu pourrais essayer de faire peut-être un jardinier ou enfin, un paysagiste, quelque chose comme ça. Et là, j'ai fait mes études à Albi, à Font-Labour, au lycée horticole. Et j'ai passé un CAP BEP Jardin Espace Vert. Et puis, donc, j'ai été jardinier 10 ans à la ville de Mazamet. J'étais fonctionnaire, donc. Puis bon, au bout de 10 ans de fonctionnariat, je trouvais que c'était pas du tout ce qui me convenait, attendre à la fin de ma vie. Dans une municipalité, une mairie, non, je me voyais pas. Et puis, j'ai monté ma boîte. Et depuis, je suis arboriste grimpeur, voilà. Ce métier-là, pour moi, il a avant tout pour but et pour vocation de soigner les arbres. J'ai toujours aimé les arbres, ça c'est clair. J'ai toujours aimé la nature aussi. Et puis là, de là, j'ai repris encore plus les bouquins. Et puis j'ai mangé des livres, ce que j'avais pas forcément trop fait à l'école. Voilà. On va aller prendre l'air un petit peu. Allez, go. Alors là, on a du robinier. On a du châtaignier. Et là, tu as des chênes. Quand je suis dans la forêt, là, c'est comme si j'étais avec des amis silencieux, on va dire. J'adore parce que c'est des amis, j'ai pas besoin de parler avec eux. Déjà, ils me cassent pas les oreilles. Et s'ils me cassent les oreilles, c'est parce qu'il y a du vent, parce que les feuilles bougent. Mais rien que cette musique-là, moi, elle me va très bien, quoi. Les arbres, dans ma vie, ils ont une place, enfin, ils sont en haut de la pyramide. Moi, j'ai besoin d'aller en forêt, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin d'échanger. Quand je m'accroche devant le ministère à Paris, j'ai ma main sur le platane avec qui c'est un dialogue, enfin ça reste mental si vous voulez, mais j'ai besoin d'échanger avec le platane dans lequel je suis, avec dans les arbres dans lesquels je grimpe. Après voilà, il y en a qui vont dire que je suis un illuminé, ça me dérange pas du tout qu'ils pensent ça de moi, mais je pense que si on se reconnecte un peu au vivant comme je le fais, comme les amoureux des arbres le font, je pense que ça ira un peu mieux, quoi. Voilà. On a perdu cette connexion profonde au vivant, à l'arbre. Et c'est pas parce que ça parle pas que ça ne vit pas. Pourquoi ne pas les considérer? Pourquoi on pourrait pas avoir un échange, même ne serait-ce que mental, avec eux? On est en hauteur, là. C'est pour ça qu'on a du vent, là, en fait. Tu vois, moi, je suis dans une espèce de cirque naturel. Je suis en contrebas. Et on a le vent d'autant. Et le vent d'autant, on appelle ça le vent des fous. Quand ça souffle pendant plusieurs jours, en fait, ça rend fou, en fait. Et moi, comme je suis en contrebas, c'est parfait parce que ça me passe à 15 mètres en hauteur en dessus de la tête. Et du coup, quand on vit chez moi, on évite la folie. C'est bien, hein? Moi, je ne suis pas un extrémiste de l'arbre. Par contre, quand je vois des arbres qui sont abattus, qui n'auraient pas vocation à l'être, comme les arbres d'alignement sur le bord des routes, ça me rend triste, en fait, parce que c'est de la perte gratuite. Et je suis encore plus sensible quand je passe du temps à alerter, à dire que certains arbres là, il ne faut pas les abattre, et que quand on n'a pas entendu le message et que je vois les tronçonneuses en action, quand je vois les forces de l'ordre qui bloquent et que je vois que l'arbre tombe alors qu'on a alerté sur le fait qu'il fallait le garder, cet arbre, bon sang, il faut le garder. Là, en fait, il y a une colère intérieure qui peut me faire monter les larmes, ouais, parce que ça me rend triste de voir que l'homme, il n'a pas compris qu'il vient de se tirer une balle dans le pied. Alors moi, j'ai jamais de haine, en fait, parce que la haine, elle est destructrice. Mais j'ai de la colère, et après, il y a derrière un sentiment de, parfois d'impuissance, mais c'est pas pour ça que j'arrête les combats, parce que c'est à force de marteler que le monde change aussi, quoi. Quand c'est pas justifié, quand ça vaut pas le coup, quand cet arbre-là... il aurait pu vivre parce qu'il n'avait pas de vocation économique ou autre chose. Ouais, franchement, j'ai l'impression qu'on m'arrache un bout de moi. Ouais. C'est comme ça. Tout a commencé en 2019, quand j'ai appris que le maire de Mazamet voulait abattre... 9 platanes âgés à peu près entre 100 et 120 ans sur le bord d'une avenue. Sauf qu'on m'a rapidement appelé en me disant Ecovana est là. Ecovana, c'était l'entreprise qui coupait les arbres. premier jour, je suis allé, je me suis retrouvé confronté aux forces de l'ordre, à qui j'explique clairement qu'il y a un article de loi qui s'appelle le L350-3 du Code de l'environnement qui interdit l'abattage des arbres d'alignement, descendu tout droit du ministère de la Transition écologique. Et bon, ben là, la police, on ne connaît pas trop, machin. Et puis, quand le secrétaire de mairie arrive, tout le monde fait poussez-vous, les arbres, on les abat, quoi. Ok, j'ai dit très bien, vous voulez jouer à ça, c'est très bien. Et sauf que la nuit, j'ai préparé mon sac, je me suis dit qu'est-ce qu'il me faut. C'est la première fois que je faisais une liste de paquetage. Donc voilà, lampe frontale, corde, machin, de quoi manger, de quoi boire, panneau solaire et tout, batterie rechargeable. Et voilà, je fais ma petite liste et là je pars à 4h du matin, je m'accroche. Donc ils n'en avaient abattu que deux sur les trois premiers. Et donc je me suis accroché dans le troisième qui devait abattre. Et le matin, à 7h, l'entreprise revient, il lève la tête, il me voit là-haut. Et voilà, et puis du coup, je suis resté 3 jours. J'ai dormi dedans 2 nuits. On a fait venir les médias, France 3 est venu, ça a fait du bruit. Mais après, voilà, moi je suis très détaché. Quand il y a les médias autour de moi, je m'en fous en fait. J'ai pas cherché la médiatisation, mais j'ai envie de dire, elle est venue à moi, et tant mieux. Parce que j'en ai sauvé 7 sur 9. Pour moi, c'était une évidence de me servir de ma profession au profit de la lutte, quoi. En fait, le combat des arbres, vraiment, où j'ai eu envie de créer l'association, le groupe national de surveillance des arbres, c'est après l'action de Mazamet. C'est une association qui est reconnue d'intérêt général, donc par les services de l'État. Et son rôle, c'est de travailler le volet juridique, de travailler le volet action sur le terrain, d'avoir des groupes locaux un petit peu partout en France. Et moi, plus il y a de groupes locaux, plus il y a de petits points GNSA partout en France qu'on peut piquer sur la carte de France, et puis je suis ravi. Une fois que j'ai eu fini l'action de Mazamet, donc ça a fait pas mal de bruit au niveau régional. Et là, j'ai été appelé par une femme du côté de Condon, qui m'a alerté qu'il y allait avoir 26 platanes qui allaient être abattus pour refaire, rénover les allées à Condon. Alors Condon, c'est dans le Gers, c'est à 2h30 d'ici. Et je suis parti là-bas avec mon sac, mes cordes. Et donc je me suis accroché le lendemain matin dans les arbres. J'ai passé à peu près un mois à Condon à essayer de convaincre le maire, à essayer d'avoir des réunions. On allait tous les jours en mairie, on allait tous les jours en sous-préfecture, sonner. En fait, ils en avaient ras-le-bol de nous voir, je peux vous assurer que... Je me suis dit, il n'y a qu'à directement aller parler à Elisabeth Borne, qui à l'époque était ministre de la Transition écologique. Et c'est pour ça qu'ensuite on est parti à Paris. Je me suis accroché 28 jours dans le platane face au ministère de la Transition écologique. Mais après, quand vous allez vous accrocher devant le ministère, c'est quand même les endroits les mieux gardés de France. Il y a des caméras partout, il y a des passages de forces de l'ordre en permanence. Il y a une petite montée d'adrénaline et quand on commence à tirer sur les cordes et qu'on commence à être à 2 mètres, 2 mètres 50, là on se dit c'est bon, on est intouchable. Et là l'action du coup elle a réussi. On est content, c'est une fierté aussi de se dire bon ben on est dans l'arbre, c'est foutu là. Pour aller nous sortir, il va falloir sortir l'artillerie et c'est compliqué à chaque fois pour eux quoi. Donc ouais on gagne du terrain quoi. Mais après, passer 28 jours dans un arbre c'est difficile parce qu'en fait on a une perte conséquente de la masse musculaire des jambes. J'ai mis à peu près un mois et demi à récupérer ma masse musculaire, à pouvoir retravailler normalement, quoi. J'avais plus d'énergie dans les jambes, c'était un truc de malade. Donc après, il y a une logistique au sol qui se met en place assez rapidement, quoi. De personnes qui viennent vous ravitailler, qui rechargent les batteries, qui vous font la lessive. Il y avait une personne que je garde dans mon cœur, qui s'appelle JC. Il m'offrait le repas de midi chaud et le repas du soir chaud d'une brasserie qui avait juste à côté, entrée plat dessert en fait. Et à la fin de mon action, je lui dis combien tu me feras une note, combien je te dois et tout, hein. Parce que c'était des sommes astronomiques, 28 jours. Et il me dit non, j'ai eu un petit héritage, ça me fait plaisir, c'est ma contribution. Je me rappelle le 28e jour, je suis descendu de l'arbre parce qu'il y avait des soupçons, il y avait un truc qui allait se passer, on allait gagner, ça allait marcher et tout. Sauf que à partir du moment où j'ai mis le pied au sol, il y a eu 70 CRS qui sont arrivés. Ils ont encerclé le jardin des promenades et ils ont abattu les 26 platanes sous l'œil des 200 personnes de Condon qui étaient affligées et qui se battaient déjà depuis un mois avec moi pour éviter qu'on les abatte. Bien sûr qu'il y a un sentiment d'impuissance, hein, on n'est pas toujours des rocs et donc j'ai pas de haine mais de la colère. Cette colère-là, elle me donne envie de continuer à me battre pour faire changer les mentalités en tout cas. Là, on part à, sur la 69, on va à la Crémarbre, là où sont accrochés les valeureux écureuils, filles et garçons, qui n'ont pas reçu de nourriture depuis à peu près 20 jours. Et voilà, et là, tu as les forces de l'ordre, tu vois, qui bloquent l'accès aux grimpeurs. Donc c'est là où il y a ce qu'on appelle la zone à défendre, quoi. Donc on a les écureuils là-haut, on les voit dans les arbres. Tu vois, il y a des chênes, platanes. Ils dorment là dans le froid. Là. Tu vois, aujourd'hui il fait pas chaud. Il doit faire 8-9 degrés là. Ils sont pas super équipés, ils ont plus de nourriture. La nourriture elle est au pied de l'arbre, puisqu'on a réussi à la faire passer, mais au final c'était juste pour faire plaisir aux médias. Et puis une fois qu'ils sont arrivés au pied de l'arbre, ils ont posé la nourriture au pied de l'arbre et puis en fait il n'y a plus d'accès à la nourriture, quoi. Voilà. Donc c'est Atosca, le concessionnaire autoroutier, donc, qui a déclassé cette zone à fort enjeu environnemental, sans aucune autorisation, sans papier, sans rien. Il l'a fait passer à moindre enjeu environnemental. Et ce qui lui donne la possibilité de rentrer dedans, il est rentré dedans à partir du 15 février, alors qu'il aurait dû uniquement pouvoir couper ces arbres-là à partir du 1er septembre. Et c'est pour ça que les écureuils sont là-haut et qu'ils défendent cette zone. Parce qu'il y a une irrégularité et une illégalité, quoi. Et tu peux voir un peu le désastre qui a été fait déjà, les stigmates de cette autoroute avec toute cette terre agricole qui a été défoncée, tous ces vieux sujets, tous ces vieux arbres qui sont dessouchés. Et ici c'était vraiment paradisiaque avant qu'ils arrivent avec tous leurs engins et qu'ils bousillent tout, quoi. Il y a pas mal de zones qui ont été un petit peu dégradées, mais après elles ne sont pas du tout prêtes. Enfin, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de bitume, il n'y a rien. Et tant qu'il n'y a pas ça... Il faut se battre, c'est pas parce qu'ils ont commencé à gratter à 4 ou 5 endroits qu'il faut arrêter de se battre. Je veux dire, le projet, il est aussi sur la voie légale, c'est-à-dire qu'il y a des référés qui sont posés aux tribunaux. Mais l'idée d'une action sur le terrain, c'est aussi pour ralentir et pour faire en sorte que la justice puisse travailler et qu'on ne se retrouve pas avec une autoroute déjà clé en main, quoi. Voilà. En fait, ce projet-là, il date d'il y a 30 ans, donc il est très vieux. Hein. Et cette autoroute, elle était portée par les laboratoires Pierre Fabre. Une forte, forte influence dans la région. Alors en soi, les laboratoires Pierre Fabre, c'est très bien. Ils font des médicaments, ils font tout ce qui est les crèmes réparatrices. Ils sont leaders, c'est vraiment une belle vitrine pour la France. Ils font des belles choses. Mais ça ne les a pas empêchés, en 30 ans, sans autoroute, d'être reconnus à l'international. Et ils ont une tellement forte influence ici qu'en fait, c'est un peu, ils font la pluie et le beau temps, quoi. Et après, on vient nous dire que c'est un projet pour les citoyens, mais pas du tout. C'est, vous savez, l'autoroute à Castres, elle prend naissance au pied des laboratoires Pierre Fabre. Et voilà, il y a beaucoup d'entités. À Mazamé, il y a les laboratoires Pierre Fabre, il y en a à Castres, il y en a à Lavaur, il y en a partout, quoi. Donc, disons qu'ils vont récupérer les bénéfices d'une autoroute, quoi. C'est-à-dire le flux de marchandises, une fois de plus, accélérer encore le flux de marchandises. Mais après, ce projet d'autoroute à 69, il consiste à artificialiser 53 km de terre agricole. Il va toucher les nappes phréatiques, hein, il met sur le carreau à peu près une centaine d'agriculteurs. Certains qui sont en déprime, hein, clairement. Il y en a qui ont perdu leur exploitation parce que du coup, elle est plus viable. C'est un projet antisocial parce que c'est 17 euros l'aller-retour pour 53 km. Ça va faire naître à terme des plateformes logistiques comme Amazon, comme des Ikea, comme des gros trucs qui vont encore manger de la terre agricole, qui vont encore avoir un flux de camions énorme et qui vont encore faire rouler. Mais au-delà de ça, c'est qu'elle n'a aucun sens parce que la nationale n'est pas saturée. Il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas d'arrêt. Ça bloque à aucun niveau, quoi. Donc cette autoroute, elle fait gagner entre 12 et 15 minutes pour aller à Toulouse pour un projet à 600 millions. Pour 53 km, c'est juste 12 à 15 minutes de gagner. Et du coup, la nationale va être déclassée. Donc nous, en tant que simples citoyens qui ne voulons pas prendre l'autoroute, en fait, on va perdre un temps considérable. Il va falloir qu'on repasse dans des petits villages, 12 ronds-points supplémentaires. Enfin, c'est une vraie catastrophe, quoi. Et la commission d'enquête financière, elle dit que cette autoroute, dès qu'elle va ouvrir, elle va être déficitaire. en début d'année 2023. J'ai été contacté par le collectif La Voix est libre, qui m'ont annoncé que les arbres de Vendine, ils allaient être abattus. Et j'ai pas été trop mauvais sur le timing, parce que j'ai grimpé dans un platane à Vendine, qui était un platane situé en plein milieu du tracé de l'autoroute. Et en fait, ce qui était important, c'est d'arriver à la date du 1er mars, c'est la période de nidification. Et du coup, là, les arbres étaient intouchables jusqu'au 1er septembre. Donc, les forces de l'ordre m'ont vu, ils ont essayé de me déloger. Ils ont compris que j'en étais pas à mon premier coup et que j'étais pas prêt de descendre. Donc, du coup, ils m'ont laissé mûrir dans l'arbre. Donc, on a tenu 10 jours et ensuite, on a pu redescendre. Et le 1er septembre à minuit, en fait, là, ils ont commencé à sortir la tête à batteuse. Ils ont coupé les arbres sous nos yeux, quoi. Voilà. Donc, ensuite, on est allé s'accrocher devant le conseil régional d'Occitanie. Quelques jours. Et puis là, j'ai dit aux copains, non, là, il faut aller taper devant le ministère de la Transition écologique et devant le ministère des Transports. Donc là, on est parti là-haut et on est resté une bonne quinzaine de jours, il me semble. Le moment de bascule sur la grève de la faim, c'est que, en fait, à un moment donné, quand on a un peu tout épuisé, les réunions, les discussions, les actions, en fait, quand on ne sait plus trop quoi faire, il faut taper fort. Et les grèves de la faim, médiatiquement, c'est assez impactant quand même. J'avais 28 jours de grève de la faim. Et le dimanche, en fait, ils sont venus avec les grimpeurs pour nous déloger avec des nacelles. Bon, moi, j'étais pas mal épuisé. J'ai réussi à lutter 3h30 dans l'arbre, mais j'ai pas tenu davantage parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force. Et du coup, ils m'ont cueilli et ils m'ont descendu. Et puis ensuite, on a fait une grève de la soif qui n'a pas duré longtemps pour moi puisqu'elle a duré 12 heures, je crois. Et j'ai fait un malaise, j'ai eu une perte de connaissance en fait. Je suis tombé, je ne me rappelle plus de rien, j'ai fini à l'hôpital. Parce que voilà, quand on ne s'hydrate plus, c'est super rapide en fait. Mais là, c'était très dangereux ce qu'on a fait, quoi. J'avais perdu 11 kilos, ouais, je ne ressemblais pas à grand-chose. Mais là, j'ai arrêté maintenant, et je fais gaffe à moi maintenant, parce que la santé, c'est important, et se la bousiller, ça ne fait pas avancer les choses, quoi. Quand la lutte elle est longue et difficile, je suis fatigué parfois de me battre. Et il peut m'arriver de me dire que ce que je fais là, en fait, mais ça sert à rien, quoi. Et puis je me dis, je suis là, mais regarde, les gens en bas, ils continuent leur vie, ils te passent au pied de l'arbre, ils marchent, ils font leur truc pendant que toi, tu te bats. Et au final, le temps que tu passes là, tu le passes pas avec ton fils. Le temps que tu passes là, ça va leur profiter à eux, alors qu'eux, ils ont rien foutu. Pourquoi je me bats pour l'être humain, quoi, alors qu'il est content de s'autodétruire, quoi. Et puis dans ces êtres humains que je mets, il y a mon fils. Donc après, ça s'arrête vite. Je refais marche arrière. Mon fils, il est encore dans l'âge de l'insouciance. Il se lève le matin, il s'épanouit dans un univers qui est magique pour lui. Et j'ai ce devoir, moi, en tant que papa, de lui offrir un avenir. Si les autorités étatiques ne sont pas en capacité de réagir à ce qui est en train de se passer, et du drame qu'on va vivre dans pas longtemps si on fait rien aujourd'hui, bien c'est à moi, en tant que papa, de tout faire pour qu'il puisse continuer à vivre sur une planète habitable. C'est tout. Moi, je suis comme vous. J'ai un travail. J'essaye à un moment donné d'arrêter de travailler pour essayer de faire des actions parce qu'il faut les faire. Mais je suis sur des luttes qui ne font pas l'unanimité pour certains. Et il y a de la casse. Il y a de la casse au niveau amical. Il y a de la casse au niveau parfois familial. Il y a eu de la casse là récemment sur la 69. Là. Parce que j'ai des amis qui attendent cette autoroute depuis une trentaine d'années, qui ont du mal à comprendre que les temps changent, que on ne peut plus se permettre tous ces projets-là destructeurs qui lacèrent nos terres agricoles, qui empêchent nos enfants de se nourrir à local plus tard. Et ça, ils ne comprennent pas. Donc, il y a de la casse, ouais. Mais après, peu importe si je perds des amis, de la famille, peu importe si je perds un confort de vie, une activité professionnelle qui s'amoindrit en termes financiers, peu importe tout ça. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je dois aller au bout de ce que j'ai dans la tête. Hein, et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, quoi. Voilà. S'il venait à m'arriver quelque chose, le GNSA, il est autonome. On a plus de 60 antennes en France. On a à peu près une création par semaine de groupe national. Les gens se sont emparés du truc et c'était le but. Hein. Là, je mets clairement en place des nouvelles figures, hein, les nouveaux grimpeurs, grimpeuses du GNSA. Je veux qu'ils prennent le relais. Les groupes locaux, parfois, ils m'appellent en me disant ben là, on va partir là-dessus, on va sauver là, il y a ça à sauver. En fait, aujourd'hui, ils font leur truc, ils le font tout seuls, ils le font très bien, ils n'ont plus besoin de moi et c'est parfait. Quoi. À terme, moi, j'aspire à me retirer sur la pointe des pieds et à laisser faire les gens. Quoi. Parce que le mouvement est lancé et que je trouve ça tellement beau. Quoi. Voilà.
C'était Thomas Braille, l'écureuil militant, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Thomas Braille, bien sûr, ainsi qu'à Véronique Reberotte de France Culture. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.